Michel Onfray, dans votre philosophie, la notion de biographie est absolument indissociable de votre méthode. Vous parlez de votre maïeutique, comme s'il était utile, sinon même impératif, de connaître la vie et même le corps de la personne qui pense.
Oui, mais ça, c'est une vieille tradition. Je n'invente pas grand-chose. C'est toute l'Antiquité qui fonctionne comme ça.
Mais ça
C'est-à-dire
devient
que.
dans votre cas une méthode, c'est-à-dire
Oui.
que chacun des livres est toujours aussi précédé
Une
d'un
préface.
élément, préface biographique,
Absolument.
puisé à même votre corpus.
Oui, parce que je pense que les idées ne tombent pas du ciel et qu'elles montent de la terre et du corps, en l'occurrence, et d'une biographie. Donc il faut raconter pourquoi on a une position théorique et montrer quelle relation cette position entretient avec une expérience biographique, autobiographique, existentielle, d'enfance, souvent, d'adolescence, de ces moments où on se constitue, on constitue vraiment une unité et une identité. Et toute la philosophie antique est ainsi constituée. On va voir du côté de la vie philosophique. Ce que vise un philosophe, ce n'est pas du discours, ce n'est pas des livres. Il ne s'agit pas de, quand on est Socrate, de faire des livres pour aller faire une télévision. Il s'agit d'abord de ne pas écrire pour Socrate, mais ensuite d'enseigner pour construire une existence droite, sculpter une existence. Et le christianisme arrive sur l'entrefaite et nous dit, mais pas du tout, ça ne sert pas à ça la philosophie. La philosophie, c'est le christianisme. Donc l'affaire est réglée. Donc maintenant, vivez en chrétien et vous vivrez en philosophe. Et la pratique se substitue, la pratique chrétienne, religieuse, se substitue au travail véritable sur soi. Donc les intellectuels, les philosophes deviennent des gens du discours, commencent à disserter sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que le Père est supérieur au Fils, inférieur au Saint-Esprit? La transsubstantiation, est-ce que le corps du Christ est réellement dans, etc. Et la philosophie, ça devient ça. Et moi, je propose qu'on revienne à l'état pré-chrétien, qui consiste à dire, un philosophe, c'est quelqu'un qui propose une existence, un mode d'existence, un type d'existence.
Un mode de vie.
Un mode de vie. C'est une vie philosophique que doit viser le philosophe.
Donc c'est très incarné.
Ah oui. Dès lors, on peut être philosophe sans avoir écrit un livre de philosophie. On peut avoir écrit un livre de philosophie et ne pas être philosophe. Et puis on peut aussi avoir écrit des livres de philosophie et tâcher de l'être philosophe. Et on peut montrer ce qu'est une vie philosophique quand on raconte des moments de son existence.
Mais à l'évidence, l'a priori qu'on a sur la philosophie, ce n'est pas ça. Parce que ce qu'on nous enseigne à l'école, ce qu'on nous dit de la philosophie, relève généralement que de l'esprit.
C'est du
C'est
discours.
très éthéré.
Absolument.
Et rarement incarné dans une pratique ou dans une vie, encore moins dans un corps. Parce que vous le dites aussi, le corps nous dit beaucoup.
Oui. Et Nietzsche dit ça très bien dans la préface au Gai Savoir. Il dit en philosophe avec son corps, en philosophe avec ses impuissances, avec ses angoisses, avec toutes ces choses-là. C'est une chair qui pense. C'est pas du tout un cerveau éthéré qui aurait à voir avec les idées pures. On n'est pas en ligne directe comme ça avec les concepts qui seraient dans un ciel intelligible. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça fait des siècles qu'on nous dit que c'est comme ça. Il y a des biographies, des agencements, des existences, des rencontres, des chances, des malchances, des déterminismes divers, biologiques, génétiques, familiaux, sociaux, politiques, culturels, etc., religieux. Et puis se constitue un être qui va devenir ce qu'il est, devient ce que tu es, disent les Grecs. Et on devient un jour cette entité qu'on aura plus ou moins construite. Et très peu de gens ont la possibilité de la construire.
On est l'esprit de son corps.
On peut dire ça, on est le corps de son esprit, l'esprit de son corps, c'est un peu spinoziste de le dire comme ça, dans ces termes-là. Mais de fait, l'esprit, ça n'est jamais que l'une des modalités du corps, et le corps, ça n'est jamais que l'une des modalités de l'esprit.
Mais il y a une telle hiérarchie
Oui.
dans la façon dont les choses sont enseignées, l'esprit domine toujours, c'est un magistère au-dessus du corps.
Oui, en quoi nous sommes encore chrétiens? Parce que on imagine toujours qu'il y a dans un être... un corps de chair qui va disparaître et une âme immortelle ou éternelle, ou éthérée, ou une espèce de principe éthéré, et que cette chose-là, elle est associée, bizarrement, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi et comment, et de quelle manière chez les gens qui affirment ce dualisme-là, moi j'affirme l'inverse, je dis non, on est dans une logique, pas dualiste, mémoniste, c'est-à-dire il n'y a qu'un corps, qu'une chair, et elle est diversement modifiée, une partie du corps peut s'appeler le cerveau, appelons ça l'âme si on veut. Une autre partie va s'appeler l'estomac, c'est pas la même fonction, mais on a besoin de l'un et de l'autre. Et de fait, un philosophe, c'est quelqu'un qui est dans des agencements comme ça, biographiques, autobiographiques, personnels, matériels. Voilà pourquoi mon matérialisme est radical.
C'est pour ça que le parcours commence à peu près pour vous avec le ventre des philosophes, littéralement?
Oui, d'abord, ce livre était titré « Diogène cannibale », ce qui n'est pas le même livre quand on change le titre. J'aime pas beaucoup le mot ventre, et encore moins le titre Ventre des philosophes. Ça, c'est un titre d'éditeur, c'est le seul sur mes 30.
Vous n'aviez pas le même ascendant sur ceci au début.
Ouais, pas d'ascendant du tout. J'ai découvert que, moi-même pas, moi, mis devant le fait accompli, le jour où je suis venu faire mon service de presse, je dis que c'est quoi ce titre? C'est mieux, etc.
Mais alors, ça dit quand même quelque chose.
Ça dit pas la même chose, mais ça dit quelque chose. De fait, vous avez raison, et je tâchais de montrer sur le mode ironique que, et l'ironie s'est mal portée en philosophie, que finalement, les philosophes mangeaient comme ils pensaient comme ils mangeaient, et ce qu'ils avaient dit et fait avec la nourriture, ça nous renvoyait à leur système. C'est-à-dire que Nietzsche, qui nous fait l'éloge de la légèreté, qui nous dit les Allemands mangent trop de pommes de terre, ils boivent trop de bière, et leur esprit est lourd, ils sont dans le concept, il faut manger des choses légères, etc. Prends du chocolat le matin au petit déjeuner, demande à sa mère des saucisses, veut absolument qu'on lui envoie de la charcuterie, etc. Et je montre comment on essaie de philosopher justement dans l'esprit nietzschéen, avec ses puissances et ses impuissances. Alors évidemment, on a fait de ce livre un joli livre de gastronomie, absolument plaisant, parce que on y voyait Rousseau boire du lait, on y voyait Diogène manger des poulpes crues, ou ce genre de choses. Puis on n'a pas vu qu'il y avait une proposition qui, elle, disait « soyons matérialistes ». Et voyons que le corps qui pense, c'est le corps qui mange aussi. C'est le corps qui a une sexualité, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui souffre, c'est le corps qui vieillit, c'est le corps réel. C'est pas le corps, c'est majuscule, l'idée du corps ou le concept du corps, mais c'est la réalité du corps et la réalité de la chair.
Si, dans 100 ans, la pensée de Michel Onfray devait exister toujours et être enseignée, la personne qui emploierait votre méthode, parce que vous commencez toujours par définir un penseur à partir de sa biographie, qu'est-ce qu'on dirait de Michel Onfray, de sa vie et de l'impact de celle-ci sur sa philosophie?
Ça, c'est la pire des choses qui puisse vous arriver, d'être enseigné par des gens qui viendraient découper en rondelles.
Vous le faites très bien quand vous enseignez la contre-histoire.
Oui, mais bon.
Vous le faites avec d'autres, en tout cas.
On n'est pas nombreux à le faire comme on le fait, c'est-à-dire en sympathie ou en proximité.
Alors, sympathiquement,
ou en empathie.
Que...
Oui. Non, moi, je préférerais que, tant qu'à faire, s'il faut être élu encore dans un siècle, que je le sois par des gens qui fassent ça tout seuls, qui fassent vraiment un travail personnel en disant « j'ai lu ce livre, j'ai aimé ce livre, et il y a des idées qui vont me permettre de construire ma propre existence ».